Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. Fugue. Au programme, la crise du logement serait encore plus difficile pour bien des LGBTQ+. Roger et Théo, citoyens d'honneur. Et la situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023. Bonne écoute.
Mettons fin à la criminalisation du VIH au Canada. Un texte écrit en collaboration spéciale avec Ken Montit, directeur de la COCQ SIDA, paru le 28 avril 2023 dans le magazine Fugue. Depuis des années, les personnes engagées dans la défense des droits demandent des actions concrètes pour que cesse la criminalisation du VIH au Canada. Pensons notamment à la dernière déclaration de consensus communautaire de la coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH. Comme vous le savez peut-être, le gouvernement fédéral a mené jusqu'en février 2023 une consultation publique sur les réformes possibles du Code criminel en affirmant d'abord être conscient d'une surcriminalisation des personnes qui vivent avec le VIH. Bien que cette dernière ne soit toujours pas publiée, il est essentiel que le gouvernement agisse sans plus attendre en rédigeant et en apportant de tels changements à la loi en consultation avec les personnes vivant avec le VIH et le secteur du VIH. Les voix des chercheurs et chercheuses canadiens et canadiennes sur le VIH dans de nombreuses disciplines sont fondamentales pour un dénouement heureux de cette lutte. L'état actuel du droit canadien, qui criminalise les personnes vivant avec le VIH, est en décalage avec les connaissances scientifiques dont nous disposons sur la transmission du VIH. Il y a près de 10 ans, lors de la conférence de 2014 de l'ACRV, des scientifiques préoccupés par la portée excessive du droit criminel canadien ont publié un important énoncé de consensus canadien sur le VIH et sa transmission dans le contexte du droit criminel, approuvé par des dizaines d'experts et d'expertes scientifiques en sciences fondamentales, en épidémiologie et en soins cliniques. Une déclaration similaire de consensus d'experts et d'expertes scientifiques à l'échelon mondial a été publiée à l'occasion de SIDA 2018, également dans le but de prévenir le mésusage du droit criminel. Mais le recours excessif au droit criminel s'est poursuivi. Il existe aujourd'hui un corpus considérable de preuves en sciences sociales, au Canada et ailleurs, documentant les nombreux préjudices de la criminalisation du VIH. Le gouvernement fédéral a déclaré à plusieurs reprises s'inquiéter de la surcriminalisation du VIH, mais n'a pas encore introduit de législation pour changer les choses. Il est plus que temps d'agir. C'est pourquoi, au moment où les personnes qui travaillent à la réponse au VIH au Canada se réunissent pour l'ACRV 2023, nous invitons les chercheurs et chercheuses en VIH du Canada dans divers domaines et disciplines à signer cette lettre ouverte au gouvernement fédéral pour l'inviter à agir. L'objectif de cette lettre est de montrer l'ampleur du soutien de la communauté canadienne de recherche sur le VIH en faveur de changements juridiques. Ken Montit, directeur de la COCQ SIDA. C'était Mettons fin à la criminalisation du VIH au Canada, un texte écrit en collaboration spéciale avec Ken Montit, directeur de la COCQ SIDA, paru le 28 avril 2023 dans le magazine Fugue.
Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, Printemps 2022, numéro 149. Freda Linton est l'une des rares femmes accusées d'espionnage dans l'affaire Gouzenko. Proche du député et espion Fred Rose, cette Montréalaise est présumée avoir relayé des informations très confidentielles. Elle aurait aussi participé au recrutement de nouveaux agents. Son parcours est une invitation à un jeu de pistes digne d'un polar de la guerre froide. 19 mars 1946. Cinq jours après l'arrestation de Fred Rose, une secrétaire de la Montreal Shipping Company quitte précipitamment son bureau après avoir reçu un appel téléphonique. Son attitude étrange surprend ses collègues. Ce jour-là, Freda Linton disparaît sans laisser de traces. Le 22 juillet 1946, un mandat d'arrêt est justement lancé à son endroit dans le cadre de l'affaire Gouzenko. Elle ne refera surface que 3 ans plus tard à Montréal pour se livrer à la Gendarmerie royale du Canada, GRC. Une étrange libération. Le 11 avril 1949, lorsqu'elle se rend de son plein gré à l'inspecteur William Brady, chef des enquêtes judiciaires à la division C de la GRC, Freda Linton est une femme lassée par ses 3 années de cavale. À son retour, la fugitive est en outre enceinte de 7 mois. Le lendemain de son arrestation, les journalistes découvrent, à son arrivée au tribunal de Montréal, une trentenaire raffinée qui ne laisse personne indifférent. Chic et élégante, âgée de 33 ans, elle est souvent décrite dans les journaux de l'époque comme une brunette de petite taille, aux lèvres fortement soulignées d'un rouge écarlate, le nez chaussé d'une paire de lunettes légèrement teintées et qui s'avance à la barre d'un pas déterminé, selon la presse, datée du 12 avril 1949. Pour sa défense, Freda Linton a choisi l'avocat de Fred Rose, Joseph Cohen. Il faut dire que Cohen connaît bien le dossier. Freda Linton comparaît pour les mêmes raisons que le député communiste. Selon le rapport de la commission royale Kellogg-Taschereau, elle aurait violé la loi des secrets officiels et conspiré aux côtés de Fred Rose entre le 3 juin 1939 et le 6 septembre 1945 pour obtenir les secrets du RDX pour Research Department Explosive. Durant ses premiers interrogatoires, Freda Linton nie toute implication et obtient gain de cause. Elle est libérée sous cautionnement de 5 000 $ au printemps 1949 et ne sera plus inquiétée alors que Fred Rose a été condamné à 6 ans de pénitencier 3 ans auparavant. La plainte la visant sera même retirée par la suite par la couronne, officiellement par manque de preuves. Officieusement, les autorités l'auraient libérée juste avant les élections fédérales pour ne pas heurter l'électorat travailliste, comme le souligne le maire de Montréal, Camilien Houde, dans Le Devoir du 22 juin 1949. Freda Linton explique le 3 mai 1949, à la presse, les raisons de sa fuite en 1946. « J'avais cru, dit-elle, en face de la campagne insidieuse qui se faisait alors, qu'il était préférable pour moi de quitter le pays. Mais en aucun temps je n'ai craint de faire face à la justice de mon pays et de subir un procès. Plus tard, lorsque j'ai constaté que l'atmosphère était plus sereine et plus propice pour y subir un procès juste et équitable, je me suis livrée et voilà où en sont rendues les choses. Alors qu'elle est citée à plusieurs reprises au cours du procès de Fred Rose et des autres agents, Freda Linton est restée un mystère durant toutes ces années pour les enquêteurs. Activement recherchée sur tout le continent, elle raconte s'être cachée à Montréal. On retrouve pourtant sa trace aux États-Unis. À l'image du grand absent des procès Gouzenko, Sam Carr, l'espion torontois qui s'est, lui aussi, enfui de l'autre côté de la frontière, avant d'être arrêté et condamné en 1949. Après avoir quitté son appartement du 109 avenue Laurier-Ouest à Montréal, en emportant toutes ses affaires, Freda Linton vit dans la clandestinité de 1946 à 1949. Selon certains membres de sa famille, elle aurait été aidée par le Parti communiste. Le FBI retrouve sa trace dans la région de Seattle. Mariée à un marin, elle a adopté le nom de famille de son nouvel époux américain, Alexander. Les services américains, qui ne sont pas en mesure de l'interpeller, décident de révéler la véritable identité de son épouse à son mari. Quand il apprend, en pleine Amérique pré-macartiste, que sa femme est une espionne communiste, William Alexander décide de l'abandonner. Traquée, enceinte, avec nulle part où aller, Freda Linton Alexander décide de rentrer chez elle à Montréal. Fin de la cavale. Vous écoutez Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, printemps 2022, numéro 149. Nom de code, Freda. À l'image de la fameuse espionne allemande Ursula Kuczynski, agente de l'ancêtre du GRU, une puissante agence militaire rivale du KGB, la Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, ou GRU, défend l'État, alors que le KGB défend le parti. Freda Linton est un caméléon qui n'en est pas à son premier changement de nom. Quand elle voit le jour, le 6 mars 1916, à Montréal, de parents juifs d'origine polonaise, elle se nomme Freda Lipschitz. Par la suite, elle changera son patronyme en Linton, puis Alexander. Sur certains documents officiels de la couronne, le nom de Fritzi Linden est également mentionné. Dans les notes du colonel Nikolai Zabotin, attaché militaire de l'ambassade soviétique à Ottawa et chef du réseau d'espionnage canadien, elle est décrite sous son nom d'agent, Freda. Dans les années 1930, les Soviétiques cherchent activement à rallier à leur cause les Ukrainiens ou les Polonais établis au Canada. Freda Linton est la candidate idéale pour intégrer ce vaste réseau d'agents dont les membres sont souvent recrutés parmi les étudiants, instituteurs, scientifiques, fonctionnaires ou encore employés de bureau comme elle. Les agents canadiens sont formés et conditionnés dans des cercles d'études communistes. Le but est de les familiariser à la collecte d'informations ou encore au transfert de documents sensibles dans la plus grande discrétion. La qualité essentielle requise pour faire partie du réseau est d'avoir foi en l'idéologie communiste ou d'être au moins sympathisant. C'est le cas de Freda, membre du Parti communiste entre 1935 et 1936 et favorable au régime soviétique. Trilingue, parlant hébreu, anglais et français, cette discrète sténodactylo peut rendre de grands services. Selon Igor Gouzenko, Freda aurait servi de courrier pour acheminer les informations à Fred Rose et à l'ambassade russe. Elle aurait également été chargée de recruter de nouveaux membres pour le réseau d'espions. Ce qui frappe le plus quand on se penche sur les archives de la commission royale Kellogg-Taschereau et les documents des services secrets britanniques, c'est que le destin et les actions de cet employé de bureau semblent toujours liés à ceux des hommes impliqués dans cette vaste nébuleuse d'espionnage. Déterminée et discrète, Freda Linton a su tisser un réseau de contacts extrêmement influent. Du Bureau international du travail à l'Office national du film, les espionnes communistes en mission à l'époque sur le continent sont souvent utilisées par les hommes du parti pour leur charme et leur capacité à pouvoir collecter des informations secrètes, la plupart du temps réduites à un rôle de séductrice. Cette tactique courante des services d'intelligence de l'Union soviétique repose souvent sur le recours au chantage, arme redoutable pour obtenir des faveurs ou encore compromettre ses cibles. Les espionnes étaient d'ailleurs bien souvent sélectionnées selon leur apparence physique. Elizabeth Bentley, espionne communiste américaine qui opère à la même période que Freda, est décrite par le New York Journal American, quotidien fortement anticommuniste, comme une New-Yorkaise blonde aux yeux bleus, galbée et qui savait attirer les secrets de ses sources. Cette dernière fera d'ailleurs défection comme Gouzenko et deviendra par la suite une informatrice du FBI. La touche arme de Fred Rose, Freda Linton, ne semble pas déroger à la règle. Avant la Montreal Shipping Company, elle a notamment travaillé pour le Bureau international du travail, un organisme où elle a côtoyé des fonctionnaires haut placés et a pu établir des contacts stratégiques. Selon le compte-rendu des suspects de l'affaire Gouzenko, Freda Linton est ensuite en poste à l'Office national du film, ONF, à Ottawa, du 22 mai 1944 au 30 septembre 1945. Pendant 6 mois, elle est la secrétaire de John Grierson, commissaire du gouvernement à l'Office national du film, ONF. À l'époque, Grierson, le père du documentaire britannique, est un homme influent, aux idées progressistes et souvent précédé d'une réputation sulfureuse. En 1942, le FBI s'intéresse de près à lui et l'accuse d'héberger des sympathisants communistes dans ses locaux. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, souligne que certains de ses films ont l'air d'avoir été écrits et dirigés avec un point de vue pro-soviétique. Voici une note de l'ONF datée du 28 juin 1946 qui atteste de l'embauche de Freda Linton. Freda Linton a été interviewée en mai 1944 et a été considérée comme une candidate probable pour un poste dans la distribution en raison de son expérience avec le Bureau international du travail. À l'époque, cependant, nous n'avions pas de poste disponible dans la distribution et c'était suggéré que pendant une période temporaire, Mademoiselle Linton pourrait travailler comme secrétaire de M. Grierson. Ellipse. Il a été convenu qu'elle devrait passer environ 6 mois avec M. Grierson et, à la fin de cette période, il s'arrangerait pour qu'elle se rende à la distribution. C'est d'ailleurs ce qui arrive en avril 1945. Le gérant de la distribution de l'ONF envoie Freda Linton à Washington pour remplacer leur représentant sur place, parti à San Francisco. Tout cela sous la supervision de John Grierson. Freda, soudainement promue à la distribution, va passer 2 mois dans la capitale américaine. Un voyage de travail qui tombe à point nommé. Le GRU est à la recherche de nouveaux agents à l'extérieur du Canada. Fred Rose doit approcher le généticien sympathisant communiste Arthur Steinberg à Washington. Il charge Fred Allington d'établir le contact sur place. Sa confiance en elle est très grande. Leur relation semble d'ailleurs dépasser le stade de la simple collaboration, comme en atteste l'enquête menée par la commission Kellogg-Taschereau. Vous écoutez Fred Allington, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Capot Diamant, printemps 2022, numéro 149. Fred et Freda, couple d'espions. De mars 1944 à juin 1946, la propriétaire d'un appartement au 30 avenue Beechwood à Ottawa, Madame Gottman, assure avoir loué son bien à Fred Rose. Toutefois, à 2 reprises, la propriétaire révèle aux enquêteurs qu'une certaine Freda Linton a appelé pour un problème de réparation de serrure. Cette déclaration corrobore le fait que Freda Linton et Fred Rose entretenaient une liaison, comme l'avance Mary Lee Weisbord dans son ouvrage « Le rêve d'une génération ». Les deux personnages s'affichent dans des dîners mondains, comme ceux organisés par Raymond Boyer, autre acteur clé de l'affaire Gouzenko. Dans les notes du carnet du colonel Zapotine, Freda est même décrite comme une « lady friend » du professeur. Freda Linton profite de ces relations pour faire remonter des informations aux Russes. Ainsi, Gouzenko atteste qu'il a rencontré Freda Linton dans la maison du major Sokolov à Ottawa à l'automne 1943 et que le jour suivant, Sokolov écrivait au colonel Zabotine pour lui livrer des secrets relayés par Freda. On peut rapprocher ce mode opératoire et celui de l'espionne américaine Leontine Cohen, qui travaillait également pour le compte de l'Union soviétique. Sous son nom d'agent, Lona, Léontine a servi de boîte aux lettres au physicien Theodore Hall, collaborateur du projet Manhattan à Los Alamos. Sans connaître tous les détails, il ne fait pas de doute que Freda Linton a été une alliée d'importance pour Fred Rose, qui avait de grandes ambitions à son égard. Ainsi, la pièce à conviction 37, subtilisée par Gouzenko, indique « Research Council, rapport sur l'organisation et le travail. Freda, au professeur, par l'intermédiaire de Grierson. » Une phrase énigmatique qui révèle la volonté des services russes de lui donner de nouvelles attributions auprès de Raymond Boyer. Selon Gouzenko, le GRU ne se satisfaisait pas de son travail à l'ONF entre 1944 et 1945 et cherchait à la faire entrer dans un ministère plus important avec l'appui de John Grierson. Lors de son interrogatoire devant la commission royale Kellogg-Taschereau, Grierson a toujours nié que la jeune fille lui ait demandé d'intervenir pour décrocher un poste au Conseil national de recherche auprès de Raymond Boyer. Selon lui, elle semblait juste très ambitieuse et cherchait à obtenir une promotion. Exemptée de toutes les charges, Freda Linton ne reviendra jamais sur ces événements pour dévoiler ses réels agissements. Le 28 juin 1949, après ses années de double vie et de cavale, la mystérieuse Freda Linton accouche libre d'une petite Déborah à l'institution du chemin de la Reine Marie à Montréal. Elle repart ensuite aux États-Unis pour divorcer de son mari américain, William Alexander. En 1951, en pleine chasse aux sorcières et sans permis de travail valide, alors qu'elle est caissière dans un restaurant à Reno, dans le Nevada, elle est arrêtée avec sa fillette. Elle omet en plus de mentionner aux policiers qu'elle a été membre du Parti communiste. Détenue par les autorités américaines de l'immigration à San Francisco, elles sont déportées par les États-Unis pour abus de titre de séjour. À 35 ans, Freda Linton est renvoyée avec son enfant au Canada à la fin mars 1951. Contrairement à Fred Rose, retourné en Pologne, Freda Linton reste en Amérique et coulera des jours plus tranquilles dans l'anonymat à Toronto. Des années plus tard, Freda aurait reconnu son erreur, admettant avoir confondu les intérêts de l'URSS avec ceux de la classe ouvrière canadienne, comme l'indique David Levy dans son ouvrage « Stalin's Man in Canada, Fred Rose and Soviet Espionage ». Stéphanie Cabre est journaliste et réalisatrice. C'était Freda Linton, une espionne très discrète, un texte de Stéphanie Cabre, paru dans la revue Cap au Diamant, printemps 2022, numéro 149.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.